On a vu dans les dernières. En fait, on ne peut qu'avoir vu, on peut qu'avoir constaté avec le bruit que tout ça a fait, avec la couverture journalistique qu'on a eu, les grèves, l'impact dans les familles, parce qu'il y en a eu l'impact sur les soins de santé aussi, du côté de la santé, même si aujourd'hui on se concentre vraiment sur le service, le domaine d'éducation. Mais il y a eu des grèves au Québec, des centaines de milliers de travailleurs du domaine public qui ont pris d'assaut les rues pour demander des meilleures conditions de travail. Est-ce qu'ils les ont obtenues? Est-ce que c'est suffisant? On verra parce qu'ils sont en train d'accepter justement ces propositions-là à tour de rôle. Ça va se promener, ça va se faire dans les prochaines semaines. Mais je voulais avoir la lumière d'un professeur d'université et du côté de l'Université du Québec en Outaouais pour voir est-ce que le plan de rattrapage proposé est suffisant? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider nos jeunes? Est-ce que dans quel état ça se trouve tout ça? Parce que c'est assez mêlant et on sent que les professeurs voulaient aider, les jeunes, la condition dans les classes. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être trop tôt pour le dire, mais bon, on va essayer de faire la lumière avec tout ça, avec M. François Vincent. Donc, vous êtes directeur du module des sciences de l'éducation du côté de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour.
Bonjour, M. Parent.
Bon, ces grèves-là ont eu beaucoup d'impact dans les familles, chez les jeunes aussi. D'ailleurs, il y a un plan de rattrapage qui a été proposé justement par le ministre Bernard Drainville. Ce plan-là, c'est de l'argent. C'est 300 millions de dollars pour aider les jeunes. Je voudrais vous entendre, qu'est-ce que vous pensez de ce plan-là du gouvernement et de la façon qu'il a été présenté?
Ben, écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, en premier lieu, c'est que il y a eu, et vous l'avez sûrement remarqué vous-même, il y a eu un changement de ton particulier au moment où le ministre a présenté son plan. Je vous dirais que depuis son arrivée en poste, souvent on a tendance à écouter ses déclarations puis à montrer les incohérences, les difficultés qui en sortent. Et là, ça a été plutôt positif comme réaction au plan. Je pense qu'il a été très bien amené en termes de communication. Puis en termes de contenu, ben, il y a quand même eu un ajout de 300 millions de dollars et il y a une grande liberté aux différents centres de services scolaires pour pouvoir utiliser cet argent-là à bon escient en fonction des caractéristiques des milieux. Donc ça, je dirais en premier lieu, bravo là, pour avoir permis une approche qui n'est pas mur à mur pour l'ensemble du Québec, là.
Habituellement, on voit l'effet inverse. On impose des directions, des façons de faire. Et là, c'est justement, on vous laisse l'argent. Et dites-nous comment vous en avez besoin. À quoi va servir cet argent-là?
Tout à fait, tout à fait. Il y a quand même des orientations, là. Tu sais, il y a deux grands pans. D'un côté, il y a tout le soutien direct à l'élève. Donc, on a beaucoup parlé du tutorat, on a parlé d'aide spécialisée. Il y avait aussi des mesures en lien. Il y a des mesures en lien avec des cours d'été gratuits pour les élèves en quatrième et cinquième secondaire qui seraient en difficulté à la fin de cette année. On a parlé aussi de soutien aux organismes qui viennent directement en aide aux élèves, là, avec des organismes comme Tel Jeune, Allo Prof. Puis finalement, il y a eu des propositions par rapport à du rattrapage possible durant la semaine de relâche, sans que l'école soit ouverte, là, mais qu'il y ait cet aspect-là. Et de l'autre côté, ben, il y avait un aspect plus administratif, là, où il a présenté là, un report de la fin de la deuxième étape, un nouveau calendrier pour les épreuves au mois de mai-juin, donc qui aurait lieu un petit peu plus tard, puis un changement de pondération des épreuves ministérielles là, pour permettre un peu plus de liberté dans les évaluations des enseignants pour la passation des élèves.
L'objectif de tout ça, c'est d'aider les élèves qui en ont besoin, qui ont perdu des journées de classe, qui étaient essentielles. Est-ce que c'est suffisant d'après vous?
Ben, en fait, la question, c'est comment ça va être rattrapé, ce plan-là, dans les différents centres de services scolaires. Et j'ai hâte de voir les résultats concrets parce que, bon, de dire vous avez la liberté, c'est bien, mais qu'est-ce qui va en être fait par la suite? Et le nerf de la guerre, là, c'est des ressources humaines. Parce que c'est bien beau de dire, ah, ben, les enseignants qui le veulent pourront faire du tutorat, mais est-ce que la réponse va être là? Les réclamations étaient quand même des réclamations durant la grève relative à la lourdeur de la charge de travail. Donc, même si on a à cœur le soutien des élèves, parfois, faut penser à notre propre survie comme enseignant. Donc, j'ai hâte de voir quelle va être la réponse par rapport à ça. Et est-ce que les écoles vont être capables d'aller chercher aussi de l'aide, peut-être à l'extérieur du personnel enseignant, des tuteurs qui viennent, par exemple, des universités, t'sais, des étudiants ou des gens qui seraient disponibles, même s'ils n'ont pas nécessairement des brevets d'enseignement, mais qui ont des qualités particulières pour faire du tutorat. J'ai hâte de voir.
Il y a un aspect qui, moi, me chatouille, puis je voudrais vous entendre là-dessus, c'est le fait qu'on laisse beaucoup, beaucoup de liberté aux parents, à l'élève. En fait, c'est si vous voulez avoir de l'aide, on est prêt à vous en offrir. Je trouve que cette latitude-là, tu sais, je me dis, est-ce qu'il y a des parents qui vont faire le choix, parce que les parents aussi travaillent dur, ils vont te dire, écoute, moi, je fais le choix d'aller dans le sud une semaine en mars, de prendre l'occasion, et de ne pas saisir cette occasion-là pour d'autres prérogative de dire, écoute, moi, j'ai besoin de ma semaine de relâche, mon jeune a besoin de relaxer aussi, puis je trouve, en tout cas, je voulais vous entendre là-dessus, j'ai l'impression qu'on laisse beaucoup la chance, le choix aux parents et à l'enfant et même aux professeurs de dire, aux enseignants de dire, est-ce que vous voulez offrir du temps dans le... Tu sais, ça a l'air bon sur papier, mais je sais pas l'effet concret de tout ça, est-ce qu'on va le ressentir, est-ce que ceux qui en ont vraiment besoin vont en profiter ou ils vont faire le choix d'aller jouer au ballon ou faire des igloos?
Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'on a une tendance à regarder les effets de la grève en lien avec les résultats scolaires. Donc, souvent, on va regarder les résultats, puis on se dit, ah, ben, on va avoir un chiffre qui va nous permettre de montrer que bon, ben, ça s'est amélioré finalement, ou on a résorbé la difficulté ou les retards qui auraient pu être accumulés. Cependant, chez les élèves, on le sait, quand il y a ce genre de situation, ça a été le cas avec la pandémie, mais de manière encore plus exacerbée, mais c'est le cas à chaque fois qu'il y a des arrêts de cours comme ceux-là, il y a des effets sur l'anxiété, et il y a des effets aussi sur la motivation des élèves. Et de dire à un élève, après un mois d'arrêt, ben écoute, si jamais tu as besoin d'aide, continue, mais en même temps... il va vraiment falloir être à l'écoute de leurs besoins et qu'il y ait des mécanismes dans les écoles pour se dire, OK, c'est pas juste s'il le veut il faut vraiment les cibler et essayer de les inciter. Mais d'un autre côté, on est toujours dans cette espèce de balancier-là où on essaie d'avoir un équilibre parce que faire du tutorat auprès d'un élève qui n'a pas envie d'être là, c'est pas efficace non plus.
Mais c'est ce qu'on voit dans les cours d'été. Tu sais, moi, j'ai jamais pris ces cours-là, mais je sais qu'il y en avait qui disaient, écoute, j'ai coulé mon année, je vais devoir reprendre des cours cet été pour pouvoir aller. Puis c'est obligatoire, sinon on reprend au complet. Ouais. Donc, cette façon de faire-là, d'obliger, existe déjà. Mais bon, c'est sûr que quand on contraint les gens, des fois, la motivation prend le bord un peu. C'est un équilibre à trouver entre tout ça.
Ouais.
Hein, c'est pas évident.
Oui, tout à fait.
Il y a un aspect aussi en terminant, Monsieur Vincent, qui est intéressant, puis bon, on ne pourra peut-être pas s'attarder trop, trop longtemps sur le sujet, mais on entendait beaucoup les professeurs, puis là, je vais y aller avec mon petit segment, qui disait que, tu sais, on entendait la hausse salariale, mais ce n'est pas la priorité. Oui, on veut des bons salaires, mais ce n'est pas la priorité. On veut vraiment créer un environnement favorable pour le jeune à apprendre et pour aussi l'enseignant à enseigner, lui donner le goût de revenir, ne pas l'épuiser. On sent que la tâche de l'enseignant n'est pas facile. En tout cas, à les écouter, ça a l'air épouvantable et ça vient nuire même à leur volonté parce que ces gens-là vont dans ce domaine-là parce qu'ils ont la volonté de transmettre des savoirs, d'aider les jeunes et on sent que ça prend le bord un peu. Ils sont épuisés, c'est difficile. Donc, je mets la table à cette question qui est-ce que vous pensez que les gains obtenus ou les propositions faites par le gouvernement, parce qu'ils ne sont pas tous acceptés, vont permettre, c'est suffisant pour changer l'environnement dans lequel œuvrent les enseignants pour faciliter l'attraction de personnel, mais surtout la rétention?
Deux choses. Premièrement, ben, comme vous l'avez mentionné, on connaît pas, ben, on a entendu parler un peu, là, mais on connaît pas le détail de l'entente, donc il est un peu difficile à ce moment-ci de pouvoir vraiment commenter. C'est sûr que, bon, les améliorations des situations de l'offre salariale, c'est sûr que c'est un plus en termes de lourdeur de tâches. On entend beaucoup de choses en ce moment. Je vous dirais que la logique de monnayer une lourdeur de tâches, je pense que c'est pas une bonne idée, mais reste à savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir avec l'offre qui est... On le sait pas encore tout à fait. Je vous dirais que on parle d'aide dans la classe, c'est sûr que ça va aider. Le discours qu'auront les enseignants dans 2 ans vont peut-être plus nous parler que ce que l'on peut dire en ce moment. Est-ce qu'il y aura vraiment une modification dans la structure de la tâche, dans l'accompagnement des enseignants? Je le souhaite vraiment. Et on s'en reparlera dans 2 ans. Je vous le dirai si ça a un effet sur les inscriptions dans les universités.
Parce qu'effectivement, la question du salaire, puis on se terminera là-dessus, vous n'êtes pas économiste, moi non plus, mais je me suis déjà fait dire que d'hausser le salaire, oui, c'est le fun, les premières payes, on le voit, on dit, oh mon Dieu, j'ai plus d'argent dans mes poches, mais rapidement, on va établir notre rythme de vie, notre train de vie en fonction de notre salaire, on va acheter une nouvelle voiture, acheter une piscine, puis finalement, on ne remarquera plus assez rapidement cette hausse-là, puis on va encore avoir besoin de plus de quelque chose. Tu sais, des vacances, ça, c'est quelque chose qui reste, les avantages sociaux, des choses qu'on profite à toutes les années, donc effectivement, le salaire, c'est bien beau. Mais est-ce que dans 5 ans, quand les problèmes vont revenir, le salaire va être suffisant? Puis je dis 5 ans, ça sera, on espère qu'ils ne reviendront pas. Ça sera peut-être plus tôt aussi que 5 ans. C'est à voir. Écoutez, belle discussion, François Vincent, directeur du module des sciences de l'éducation pour l'Université du Québec en Outaouais. Donc, ben, écoutez, je pense qu'on va se donner rendez-vous dans 1 an ou 2 pour reparler de tout ça, voir l'effet. Est-ce que dans les écoles, il y a plus d'enseignants? Est-ce qu'il y a plus d'élèves aussi ou d'étudiants, en fait, dans les universités? On verra bien. Mais merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'est bien apprécié.
Merci à vous. Au revoir.
Au retour, on discute de l'offre faite par le gouvernement aux employés syndiqués de la Fédération de la santé et des services sociaux avec le président en Outaouais, Alain Smolinicki.